j'ai quitté la responsabilité du diocèse de Meaux il y a exactement 8 jours. J'ai quitté Meaux le samedi dernier et j'étais en charge jusqu'à dimanche. Et donc je prends une sainte retraite un peu hérémitique dans le sud de la France des Moyens dominicaines. Et je suis très heureux de pouvoir vous parler des anges. Et je suis aussi content du petit exercice des tables il y a quelques minutes parce que cela vous a réveillé. Parce que l'heure est évidemment difficile, mais si toutefois votre voisin ou votre voisine commence à un petit peu s'endormir, surtout ne le réveillez pas ou ne la réveillez pas, et au contraire, ça c'est un conseil des moines du désert, installez-le confortablement pour qu'il dorme un peu mieux. Donc on m'a demandé de vous parler des anges dans la Bible et dans notre vie. Et je le ferai en 5 parties, sur d'abord évidemment la place des anges dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Un deuxième moment pour essayer de comprendre, même si ça nous dépasse beaucoup, qui sont les anges, quels sont ces esprits totalement immatériels et purs. Troisièmement, les anges sont particulièrement associés au mystère du Christ, au Christ, à la personne de Jésus. Quatrièmement, les anges dans notre vie quotidienne. Et enfin, ici, on ne peut pas ne pas parler de Marie, reine des anges. Les anges occupent dans la... Vous m'entendez suffisamment si... Parce que je ne vous vois pas très bien, donc... Il faudra demander une allocation particulière pour surélever un peu le strat. Les anges occupent une très grande place dans la Bible. Et par conséquent, dans la révélation que Dieu fait aux hommes de son dessein bienveillant de création et de rédemption. Et dans l'Écriture, les anges se manifestent à tous les moments importants ou décisifs de l'histoire sainte, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais nous sommes plus habitués dans le Nouveau Testament. Et la première manifestation, qui est un peu redoutable dans la Bible, c'est celui, le Seigneur assigne un chérubin à l'épée flamboyante à la garde du paradis perdu. Ce qui nous donne déjà une indication sur le rôle des anges dans leur service du dessein de Dieu. Nous retrouvons les anges, ou du moins, et j'expliquerai un petit peu les ambivalences qui reviennent à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament lorsqu'il est question de l'ange du Seigneur, l'apparition à Moïse au chêne de Mambré. Vous savez que ce sont 3 hommes qui se présentent à Abraham, mais on les a représentés dans la tradition iconographique des icônes comme des anges. Et tout cela est important parce que dans l'Écriture, les anges qui apparaissent comme et en même temps, on sait bien que c'est pas vraiment des hommes, et en même temps, on a besoin de cette représentation pour les connaître. Et donc, ils sont trois, et ils annoncent à Abraham et à Sarah une descendance. Tantôt c'est Dieu, tantôt c'est les 3 hommes. Et cette ambivalence est voulue et très importante dans notre compréhension de la Bible et des anges. Et les anges participent de très près à la splendeur de Dieu. ils ont quelque chose qui dépasse la réalité physique, corporelle de l'univers, et en même temps, ils se donnent à voir. On parle souvent dans l'écriture, et je pense en particulier au grand épisode du buisson ardent, au chapitre 3 de l'Exode, où l'ange du Seigneur apparaît à Moïse. Et je vais vous lire ce passage parce que c'est un des grands passages absolument, des grands événements absolument décisifs de la révélation et de la vie du peuple d'Israël et de l'Église. Et cela nous donne déjà des indications sur les anges. L'ange du Seigneur, je prends le verset 2 du chapitre 3. L'ange du Seigneur se manifesta à Moïse sous la forme d'une flamme de feu jaillissant du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé mais ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais m'avancer pour considérer ce spectacle étrange. Le Seigneur vit s'avancer Moïse pour mieux voir, et Dieu appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse, me voici, répondit-il. » Alors il dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte. » Dieu dit encore, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Alors Moïse voila le visage dans la crainte que son regard ne se fixât sur Dieu. Et donc, le texte nous parle d'abord de l'ange du Seigneur, et c'est une expression qui reviendra à plusieurs reprises dans la Bible, en particulier dans les livres historiques, l'ange du Seigneur qui apparaît à Manoah, etc. Et c'est à la fois l'ange du Seigneur, donc en quelque sorte distinct de Dieu, et en même temps c'est Dieu. Dieu parle à Moïse. Et dans cette ambivalence très, très belle, très intéressante, elle traduit beaucoup de choses. À la fois que les anges sont des images très, très pures et très resplendissantes du mystère de Dieu, ne sont que des images, que Dieu nous parle à travers les anges, mais c'est quand même Dieu qui parle. Et les pères de l'Église ont vu dans cet ange du Seigneur le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. À la fois comme Dieu et comme personne distincte du Père. Nous retrouvons et donc le Fils de Dieu, parce que dans le buisson c'est le symbole de la souffrance et de la croix, donc du Sauveur qui se tiendra au milieu de son peuple dans sa souffrance. Nous retrouvons les anges à plusieurs reprises dans les psaumes. Je prends en particulier le psaume 103, les versets 12 et suivants, 19 et suivants, pardon. Le Seigneur a fixé son trône dans les cieux, par-dessus tout sa royauté domine. Bénissez le Seigneur tous ses anges, héros puissants, ça c'est Gabriel. C'est au pluriel, mais c'est la même étymologie que le mot Gabriel. Ouvrier de sa parole, attentif au son de sa parole, bénissez le Seigneur toutes ses armées, serviteurs, ouvriers de son désir. Bénissez le Seigneur toutes ses œuvres en tout lieu de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Toutes ses armées, Sabaoth, c'est un terme très difficile à traduire. On traduit par armée, alors c'est un sens un peu militaire qui est réel. Mais ça a d'abord le sens d'un univers en ordre, organisé. Et donc c'est ce lien, il y a des liens entre les anges et le cosmos et l'univers des astres, leur bel ordre et leur splendeur. Nous retrouvons évidemment dans le livre de Tobie l'ange Raphaël, je vous en ai parlé ce matin à la messe. Ils sont très présents dans les derniers livres prophétiques de la Bible, chez le prophète Ézéchiel, chez Daniel, où ils ont, où chez Daniel c'est l'ange Gabriel, chez Ézéchiel ce sont plutôt les séraphins et des êtres vivants très, très mystérieux, énigmatiques, mais qui nous laissent entendre et comprendre la richesse de la nature angélique. Dans le livre de Daniel, l'ange du Seigneur, avec toujours cette ambivalence sur le terme, au chapitre 7, vient préserver du feu Ananias, Azarias et Misaël qui chantent les louanges du Seigneur. Et Daniel voit dans une grande vision de la fin des temps, Daniel voit ces myriades de myriades, je prends ça au chapitre 7. Les trônes furent placés, un ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était des flammes de feu. Alors il y a toute une interprétation après dans la tradition de l'Église, il y a une catégorie d'anges qu'on appelle les trônes et qui sont comme le support de la splendeur divine. C'est des flammes de feu, aux roues de feu ardent, et les roues sont aussi un symbole des anges, de leur mobilité extrême. Un fleuve de feu coulait issu devant lui. Mille milliers le servaient, myriades de myriades debout devant lui. Le jugement se tenait, les livres étaient ouverts. Et donc cela nous donne une idée de la multiplicité, de l'immensité, du nombre des anges. Saint Thomas d'Aquin dit que les anges sont plus nombreux que toutes les créatures de l'univers visible. Donc Gabriel se manifeste à Daniel. Michel est l'un des premiers princes, c'est vraiment l'un des anges premiers de tout le monde angélique, c'est très important, j'ai essayé de vous en dire quelques raisons ce matin par son respect, son humilité, son admiration devant Dieu, par cet élan qui le porte vers le Seigneur et qui le proclame. Il y a, dans le nom de Michel, il y a toute une évangélisation. Je vous lis, parce que c'est toujours bon d'y revenir, ce sont des résumés clairs et profonds et qui nous mettent en plein dans la foi, ce que le catéchisme de l'Église catholique, ou du moins l'un des passages du catéchisme de l'Église catholique nous dit sur les anges, c'est au numéro 332, vous irez regarder ça quand vous reviendrez chez vous, parce que j'espère que vous avez tous à portée de la main le catéchisme de l'Église catholique. Je le regarde au plafond. Les anges sont là dès la création et toute l'histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut et servant. Et ce terme de service et de serviteur est très important pour les anges. Et servant le dessein divin dans sa réalisation. Il ferme le paradis terrestre. Je vous en ai parlé il y a un instant, au chapitre 3 de la Genèse. Il protège Lot, sauve Agar et son enfant, arrête la main d'Abraham, chapitre 22 de la Genèse. Ce matin, je me suis trompé en parlant du chapitre 22 à propos de la vision de Jacob, 22, c'est la ligature d'Isaac. L'ange du Seigneur arrêta la main d'Abraham au moment où il allait offrir Isaac. La loi est communiquée par leur ministère, ça c'est la lettre aux Hébreux qui nous le dit. Ils conduisent le peuple de Dieu, ils annoncent naissance et vocation, ils assistent les prophètes, pour ne citer que quelques exemples. Enfin, c'est l'ange Gabriel qui annonce la naissance du précurseur, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et celle de Jésus lui-même. Et donc cette présence des anges est particulièrement importante. Et la tradition juive, au temps du Christ, baignait dans cette présence, ou du moins, chez une partie des juifs, et des juifs purs, en particulier chez les pharisiens, baignait dans cette présence des anges. Ils faisaient partie de l'environnement spirituel et humain des anges, des juifs et des croyants. Et on les retrouve dans les Actes au chapitre 23, lorsque saint Paul est arrêté, qu'il défend sa cause devant le Sanhédrin, et comme il sait qu'il y a des juifs, des pharisiens et des sadducéens, les sadducéens qui sont des matérialistes, rationalistes, ouais, c'est pas nouveau, qui ne croient pas aux anges, saint Paul fait appel à cela. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens professent l'un et l'autre. Quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent et protestèrent énergiquement. Nous ne trouvons rien de mal dans cet homme, à savoir Paul, et si un esprit lui avait parlé, ou un ange? La dispute devient de plus en plus vive. Si vous commencez à parler des anges à votre boulot, soit on se moquera de vous, soit la dispute deviendra vive. Donc il vaut mieux, du moins dans certaines circonstances, éviter de le faire. Et donc dans ce climat où les anges sont très présents, ils sont manifestés, ils apparaissent, ils sont présents dans tout le Nouveau Testament. Le catéchisme vient de rappeler l'annonce par Gabriel de la naissance de Jean-Baptiste, à Marie, de la naissance du Christ, et ils sont tout à fait décisifs, et j'en dirai donc quelque chose dans mon enseignement sur leur rapport au mystère du Christ. Ils sont présents à la nativité en foule innombrable au chapitre 2 de saint Luc. L'ange leur dit, donc il y a un ange, rassurez-vous, ne craignez pas, je vous évangélise une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous êtes né un sauveur. Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée du ciel qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de sa bienveillance. Et lorsque les anges les eurent quittés pour le ciel, voyez, ils montent de la terre vers le ciel, les bergers se dirent entre eux: allons jusqu'à Bethléem voir cette parole que le Seigneur nous a fait connaître. Et dans ce très beau passage, extrêmement riche d'enseignements à tous égards, je souligne le fait qu'on a un ange, celui qui évangélise, qui proclame, et quand il a fini d'annoncer, la foule immense des anges qui se joignent à lui. Et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans l'Écriture, le rapprochement, le contraste et la complémentarité entre un et beaucoup, et plusieurs. Les anges sont présents et servent Jésus à la fin de son jeûne au désert. Ils sont présents, et l'ange du Seigneur est présent à l'agonie de Jésus, et il y a une tradition qui est restée dans la tradition iconographique, où on représente saint Michel. Les anges sont présents à la résurrection pour annoncer que le Christ est ressuscité. Les anges sont présents à l'ascension sous forme de deux hommes. Ces deux hommes m'intriguaient beaucoup parce que saint Luc est toujours très précis. Quand il veut dire ange, il dit ange, et quand il veut dire homme, il dit homme. Or, j'ai découvert en travaillant cet enseignement que dans l'Ancien Testament, pour parler des anges qui apparaissent, on dit parfois les hommes. Ils sont présents, l'ange du Seigneur vient délivrer Pierre miraculeusement dans son emprisonnement en acte 12, et dans les actes ils sont aussi présents à plusieurs reprises. Donc, ils sont présents dans toute la tradition de l'Église, la tradition spirituelle, dans l'art, l'iconographie, tant en Orient qu'en Occident, et à toutes les époques. Et cette présence si constante, abondante, diversifiée, suffit à nous faire comprendre la place essentielle que jouent les anges dans la création, dans le dessein bienveillant de Dieu pour le salut des hommes. Et donc, ignorer et pire, mépriser les anges, est quelque chose qui va très profondément à l'encontre de l'œuvre de Dieu, de la révélation, de ce que le Seigneur veut nous faire connaître. Alors, qui sont les gens? Comment comprendre qui ils sont? Parce que ce sont des êtres spirituels totalement immatériels, totalement indépendants de la réalité corporelle ou physique que nous connaissons dans l'univers, et nous n'avons pas une... même si notre intelligence a cette capacité de comprendre de l'intérieur les choses, nous avons du mal à nous représenter un pur esprit. Et donc, il se manifeste à nous sous des apparences corporelles. Mais, dans l'Écriture, et cela nous dit quelque chose de leur nature, de ce qu'ils sont, ils ont une très grande majesté, on ne se tient pas en présence d'un ange comme... c'est toujours une source d'une sainte crainte. Ils sont tout de lumière, d'intelligence, de splendeur. Le feu les représente ou les environne souvent. Ils sont tout de liberté et d'amour. Et chaque ange a une personnalité unique que pour les trois ou quatre anges dont on connaît le nom qui désignent leur être profond. Leur intelligence n'a pas besoin, comme nous, les humains, d'avancer par déduction, par raisonnement, par tâtonnement, etc. Ils voient tout de suite dans la lumière, et Dieu, dès leur création, dans l'acte de leur création, leur donne tous les moyens de connaître immédiatement toute chose. Et ils sont dans une perfection de nature extraordinaire. C'est d'ailleurs ce qui sera un peu l'une des raisons de la chute de Satan, je vais y revenir, dans une perfection admirable. Chaque ange, en quelque sorte, se suffit à lui-même. J'ai dit qu'ils étaient des myriades de myriades. Alors j'ai été voir dans le dictionnaire combien faisait une myriade, c'est 10 000. Alors, d'après le grec. Ils dépassent immensément par leur perfection toutes les créatures visibles. Mais ils ont un rôle dans la création. Ils se parlent, ils se communiquent entre eux, comme la grande vision d'Isaïe des séraphins qui se proclamaient mutuellement « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». Et donc l'Écriture emploie toutes sortes de comparaisons pour essayer de nous faire comprendre la splendeur de leur nature. Et je prends l'une des images qui... s'applique, dont la comparaison sera appliquée par la tradition des pères, des docteurs de l'Église à Satan, c'est cela concerne dans Ézéchiel au chapitre 28 le roi de Tyr, qui est une image du démon avant sa chute. Tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Ce qui veut dire, je n'avais jamais remarqué ça avant de vous lire à l'instant, que les anges étaient présents avec Adam et Ève au jardin de Dieu. 1000 pierres précieuses formaient ton manteau, sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Toute pierre qui marque à la fois la splendeur, le prix, la solidité, la lumière, la diversité, la beauté. L'or, dans son fait, tes tambourins et tes flûtes furent préparés au jour de ta création. Avec un chérubin protecteur, je t'avais placé. Tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des charbons ardents. Tu fus exemplaire dans ta conduite depuis le jour de ta création jusqu'au jour où fut trouvé en toi le mal. C'est terrible, ça c'est... Là, nous frôlons des abîmes qu'il ne faut pas trop scruter. Cette chute de l'ange et avec lui, des anges qui l'ont suivi, ce que l'on peut en pressentir et en déduire des passages de la Sainte Écriture comme celui-ci, c'est que Satan s'est épris en quelque sorte de sa splendeur, de son autonomie. Il s'est trouvé n'avoir besoin de rien d'autre, parce que Dieu a proposé aux anges, qui étaient dans une grande splendeur, une grande perfection, un grand bonheur, leur a proposé un peu plus, et même beaucoup plus, c'est-à-dire que les anges, à travers le miroir de leur propre splendeur, contemplent Dieu un peu comme on peut pressentir ce qu'est le soleil à travers un miroir, se réfléchissant dans un miroir. Mais les anges n'ont pas accès, pas plus qu'aucune créature, au mystère même de Dieu, à l'être même de Dieu en ce qu'il est. Et donc Dieu leur a proposé de le voir, mais ça supposait qu'ils acceptent de recevoir cette vision, ce don nouveau de Dieu, comme un don, comme une miséricorde, comme un acte de recevoir. Et Satan a préféré sa propre suffisance, sa propre beauté, plutôt que de se soumettre et d'avoir cette docilité que crie Michel, qui est comme Dieu. Et donc il fut précipité dans sa chute, et ça a quelque chose de tout à fait terrible. Satan et les esprits mauvais. Le passage du livre de l'Apocalypse ce matin pour la fête de Saint-Michel parle que le dragon, l'antique serpent, a balayé le ciel de sa queue et a fait tomber un tiers des étoiles. Donc ça fait beaucoup. Je ne sais pas si ça correspond au nombre des anges qui ont chuté, qui ont préféré leur propre splendeur en autonomie, sans avoir besoin de Dieu, plutôt que de, malgré l'extraordinaire perfection dont ils ont une conscience très, très lucide, très immédiate, plutôt que d'avoir à dépendre du Seigneur. Donc ils sont des foules, ils sont des lumières, chacun est une personne, est une personne, a une personnalité, est unique, et en même temps en grande foule. Et ils se parlent, ils se communiquent entre eux. Et tiens, je vous lis, c'est une sœur qui m'a donné ça il y a deux jours, quand elle a su que j'allais parler des anges, elle est tombée sur un texte de Saint Grégoire le Grand, qui est un des grands papes du 6e, 7e siècle, qui commente le livre de Job. Et vous savez qu'au début du livre de Job, le démon est en présence de Dieu et il se parle. Il a dit que le Seigneur, je cite, le Seigneur parle à Satan. On nous montre Satan répondant au Seigneur. Il faut rechercher ce qu'est ce langage. Ni le Seigneur qui est l'Esprit suprême et sans limite, ni Satan qui n'est revêtu d'aucune nature charnelle, ne s'exprime par une voix physique, corporelle, une émission d'air, etc. Pour nous, quand nous voulons nous exprimer au dehors, nous parlons donc par la langue. Il ne saurait en être ainsi pour les anges. Remarquons en outre que toute nature, même incorporelle, dont on dit qu'elle parle, n'a pas qu'une seule et même espèce de langage. Autre est la manière dont Dieu parle aux anges, autre celle dont les anges parlent à Dieu, autre le langage que Dieu tient aux âmes saintes, et autre celui des âmes saintes avec Dieu. Autre enfin celui de Dieu s'adressant au démon, et autre celui du démon s'adressant à Dieu. Dans les natures spirituelles, rien de corporel ne vient faire obstacle. Dieu parle à ses saints anges par là même qu'il montre à leur cœur ses invisibles secrets. Ils lisent dans la contemplation de la vérité tout ce qu'ils doivent faire. Et les joies mêmes de la contemplation leur tiennent lieu de commandements exprimés. C'est magnifique cette compréhension, cette pénétration de Saint Grégoire sur le mystère des anges. D'un seul regard, ils savent ce que Dieu attend d'eux et ils sont pleins de zèle, d'ardeur pour se mettre à ce service. Et en même temps, dans ce regard, dit Grégoire, il y a cette joie de connaître ce que Dieu leur révèle. Et donc, quand les anges sont des serviteurs, ils servent non seulement avec empressement, avec joie. Et l'oraison de la messe des anges d'aujourd'hui, j'aurais dû la porter, dit à peu près ceci. Et c'est un texte de Saint Grégoire. Les anges qui te servent toujours, qui sont toujours devant ta face, et viennent au secours des hommes. Autrement dit, c'est les anges, être totalement fascinés, tournés vers Dieu et se mettre à notre service, ne sont pas comme pour nous, malheureux, deux activités comme distinctes et opposées et séparées. Ils lisent dans la contemplation de la vérité tout ce qu'ils doivent faire, et les joies mêmes de la contemplation leur tient lieu des commandements exprimés. Leurs oreilles entendent, pour ainsi dire, l'inspiration que leurs regards reçoivent. Tout ça est magnifique et comment dire, imprégné d'écriture, parce que dans l'écriture, chez Saint Luc, chez Saint Jean, et dans toute la Bible, regard et écoute se correspondent et se complètent toujours. Les anges montent quand ils regardent leur Créateur, ils descendent. Alors ça, c'est allusion au châtiment qu'apportent les anges à Sodome et Gomorrhe. Ils descendent quand ils châtient pour une punition terrible la créature qui se dresse en révolte. C'est d'une autre manière que les anges parlent à Dieu. Par exemple, quand ils disent dans l'Apocalypse de Saint Jean: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la divinité et la sagesse. La voix des anges n'est autre que, dans leur louange au Créateur, cette admiration où les plonge leur intime contemplation. Pour eux, leur ravissement devant les miracles de la toute-puissance est un parler, parce que l'émotion d'un cœur vibrant de respect résonne comme une grande clameur aux oreilles de l'Esprit infini. Cette voix s'exprime, pour ainsi dire, en des mots distincts, quand l'esprit qui la forme passe par divers sentiments d'admiration. C'est pas mal. Alors, nous allons passer à une troisième partie sur les anges qui sont particulièrement associés au Christ. Là, je reviens à un passage du catéchisme de l'Église catholique qui vient d'ailleurs, j'ai découvert ça hier ou avant-hier, du cardinal Journet, puisque vous savez que le catéchisme a été l'œuvre de plusieurs théologiens et travaillé par tous les évêques du monde entier, etc. C'est un numéro 331. Le Christ est le centre du monde angélique. Ce sont ses anges à lui. Le Christ est le centre du monde angélique. Cette parole, et on va s'y arrêter un instant, est absolument prodigieuse. Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu fait homme. Et le catéchisme cite ici Matthieu 25, 31, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Ils sont à lui parce que créés par et pour lui. » Citation de Colossiens 1,16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Dans le credo de Nicée-Constantinople, je crois en l'univers visible et invisible. Et l'univers invisible, c'est le monde des anges. Les visibles et les invisibles, trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est de ce texte, de ce passage de Colossiens 1,16 et d'autres que on en a déduit et compris qu'il y avait dans les myriades de myriades d'anges des degrés, des ordres, des spécialités particulières entre trône, seigneurie, principauté, puissance. Alors les théologiens et les spirituels essayent de découvrir ce qu'il y a de particulier. Les plus hauts, les séraphins, qui nous vient donc d'Isaïe, séraphins ça veut dire brûlants, ils sont brûlants de charité et de zèle pour Dieu. Le texte du catéchisme continue, ils sont à lui encore parce qu'il les a fait messagers de son dessein de salut. Vous savez que ange, angelos, ça veut dire messager, un peu comme le mot hébreu, malach, qui veut dire messager aussi. Est-ce que tous, citation d'Hébreux 1,14, est-ce que tous ne sont pas les esprits chargés d'un ministère envoyés en service pour ceux qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire pour nous. Ceci est en Hébreux 1,14, mais puisque je suis dans la lettre aux Hébreux et qu'il s'agit du Christ, je vous lis ce passage au début de la lettre aux Hébreux concernant la splendeur, le ministère unique du Christ Messie, Fils de Dieu fait homme, qui est le resplendissement de la gloire du Père, l'icône de sa substance, etc., qui est devenu d'autant plus supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Donc le Christ, Dieu fait homme. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Et encore, « Je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. » Là, la lettre aux Hébreux cite toutes sortes de passages de l'Écriture, des psaumes. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Tandis qu'il s'exprime ainsi en s'adressant aux anges, il fait de ses anges des souffles, on traduit par des vents, mais c'est franchement un peu nul, il fait de ses anges des souffles, des serviteurs, une flamme ardente. Il dit à son fils, ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui aux origines fonda la terre et les cieux, sont l'ouvrage de tes mains. Etc. Donc, les anges sont au Christ et ils le servent, ils l'adorent, ils le servent, du moins les bons anges. Et dans l'Apocalypse, l'un des, on appelle les cantiques de l'Apocalypse, l'un est précisément des anges au Christ, ou d'un ange au Christ. Pardon, parce qu'il y a deux passages. Il y a un ange qui s'adresse, l'ange vit un ange puissant proclamant à pleine voix qui est digne d'ouvrir le livre et d'en proclamer les sceaux. Nul n'en était capable. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la clameur d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône cette clameur, c'est l'admiration où les plonge leur intime contemplation, leur ravissement devant la splendeur de Dieu. Un cœur vibrant de respect résonne comme une grande clameur aux oreilles de l'Esprit infini. Donc la clameur d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, autour des vivants, des vieillards, se comptait par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, digne est l'agneau immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et donc les anges ici s'adressent au Christ en reconnaissant au Christ agneau, en reconnaissant sa splendeur et criant à pleine voix. Vous savez que le cri dans le Nouveau Testament et peut-être dans l'Ancien, mais sûrement dans le Nouveau, le cri signale la présence de l'Esprit Saint, de l'Esprit. Alors quand c'est les démons qui font crier, c'est l'Esprit mauvais, mais quand c'est Élisabeth qui s'écrie à la voix de Marie, c'est vraiment l'Esprit Saint. Et donc les anges sont remplis de l'Esprit Saint pour louer et acclamer l'agneau immolé. On fait une pause. Une petite pause aération et réveil malheureusement.